Alors, on revient à survol qu'on a fait avec moi pendant quelques semaines. On est rendu, on a fait du chemin. La dernière fois, est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qu'on a vu? Non. Vous l'avez. Hein? Une des choses qui s'est passée à la croix, c'est qu'on a été déclaré juste. On a été acquitté devant Dieu. Wow! Hein? Tout mon casier judiciaire, tout ce que j'avais sur le cœur a été effacé. Hein? Le juge dit non coupable. Hein? J'ai été acquitté de toutes ces choses-là parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ma culpabilité sur lui. Amen. Et plus que j'ai été déclaré juste, plus que ça, j'ai été, hein, Pascal, j'ai été adopté. On a vu l'adoption la dernière fois. Hein? Plus que j'ai été déclaré juste, j'ai eu une relation intime maintenant avec le Dieu qui a créé l'univers. C'est pas extraordinaire? Wow! Participant de la nature divine, je ne sais pas qu'est-ce que ça va avoir l'air, mais on va faire partie de la Trinité. Hein? Non pas qu'on est Dieu, mais on va partager la vie de Dieu. C'est big, hein? C'est immense, c'est extraordinaire. Et on doit apprendre à se débarrasser de l'esprit de servitude. Je me fouette, il faut que je me fouette pour faire ce que le Seigneur me demande. Ça, c'est pas la vie à laquelle le Seigneur nous appelle. Il veut que... Il n'y a pas besoin d'un pasteur pour me fouetter, il n'y a pas besoin de quelqu'un qui me fouette pour que je fasse ce que le Seigneur me demande de faire. Ça vient du cœur, ça vient de l'Esprit de Dieu qui est répandu dans mon cœur et qui me donne l'amour pour Dieu, l'amour pour le servir, l'amour pour les frères et sœurs. Amen. Alors, des fils et des filles bien-aimés de Dieu, et si on gratte comme il faut dans le fond de notre cœur, on a ce désir-là de servir le Seigneur. Abba, Père, hein, on crie Papa. Un autre qu'on va voir ce matin, on a déjà vu tous ceux qui sont en haut, mais ce matin, on va voir la réconciliation. Qu'à la croix, il s'est passé quelque chose, on a été réconciliés. Avant ça, on va voir des citations. Je me suis amusé d'aller chercher des citations dans la sagesse humaine. Alors, deux époux doivent se garder de se quereller quand ils ne s'aiment plus assez pour se réconcilier. Il faut réfléchir. Ouais, ça c'est de l'amour. La seule utilité des enterrements, c'est de nous permettre de nous réconcilier avec nos ennemis. Et on ne se réconcilie facilement qu'avec un mort. C'est assez défaitiste. On nous réconcilia, nous nous embrassâmes, et depuis ce temps-là, nous sommes des ennemis mortels. Ça décrit un peu le type de réconciliation dans le monde. Maintenant, si on veut une définition qui est plus dans le dictionnaire ou dans Wikipédia, c'est la prochaine, c'est faire la paix quand, au lieu de la guerre. Hein? Faire la paix avec notre adversaire ou notre ennemi après une violente querelle ou une guerre. Ça, c'est la définition de... la réconciliation. Nous étions ennemis, maintenant on est amis. Ça, c'est la réconciliation. Il y a une histoire incroyable. On peut avancer. Philippe Yancey, je ne sais pas si vous connaissez, il a écrit un livre et il parle des atrocités qu'il y a eu durant l'apartheid en Afrique du Sud. Et c'est un policier, on peut l'avancer, Pascal? C'est un policier, ils ont nommé une commission de la vérité et de la réconciliation. Alors, les personnes qui avaient commis des crimes durant la période qui a précédé ça, passant en procès, il y avait une amnistie, on ne punissait pas nécessairement les personnes, mais il y avait une confession qui était faite. Alors, il est arrivé un policier qui s'appelait Van de Broek, qui est venu devant la commission. Et lui a avoué, le policier, que lui, avec d'autres policiers, ils avaient tiré sur un jeune de 18 ans, ils l'avaient tué, et pour effacer les évidences, il l'avait fait cuire comme un barbecue. Et pour qu'ils disparaissent, qu'ils n'aient pas de preuves contre eux. Et 8 ans plus tard, il était retourné dans la même maison, il a attrapé le père, puis il a fait la même chose. Il l'a brûlé sur un bûcher. Il l'a arrosé d'essence, il l'a brûlé sur un rucher. Et là, il témoigne de ça devant la commission. Et la maman, la mère, l'épouse de la victime était là. Et la salle d'audience venait d'entendre ces choses-là. La femme se présente à la barre. Et le juge demande à la femme, « Qu'est-ce que vous attendez de M. Van de Broek? » Elle dit, « J'aimerais qu'on retourne. J'aimerais retourner à l'endroit où il a tué mon mari et j'aimerais qu'on puisse ramasser ses cendres et procéder à un enterrement qui décent. » Et là, le policier a fait simplement, « OK, je suis d'accord. » Mais ça ne se termine pas là, elle continue. Elle dit, « J'aimerais, parce que M. Van de Broek a enlevé toute ma famille, elle dit, maintenant, elle dit, j'ai beaucoup d'amour à donner. Elle dit, j'aimerais que 2 fois par mois, ils viennent au ghetto où j'habite, qu'ils viennent me visiter, qu'ils passent la journée avec moi et que je puisse être une mère pour lui. J'aimerais qu'il sache que Dieu lui pardonne et que je lui pardonne aussi. J'aimerais maintenant le serrer dans mes bras pour qu'il réalise que mon pardon est bien réel. » Elle se lève, elle s'en va vers lui. Les gens commencent à chanter « Amazing Grace » dans la salle. Malheureusement, M. Van de Broek n'a pas vu la dame, il n'a pas entendu la dame, parce qu'il s'est évanoui. Il a perdu connaissance, c'était trop, il était sous le choc, il était trop. Un homme dur, violent comme ça, qui était vraiment touché. Là, on parle d'une histoire invraisemblable, n'est-ce pas? C'est pas humain, ça. C'est quelque chose de divin, n'est-ce pas? Il y a juste Dieu qui peut donner la force de faire une chose comme celle-là. Incroyable. Alors, question ce matin, est-ce que vous êtes en conflit avec quelqu'un? Ça peut être un conflit ouvert. Vous êtes capable de dire, « Hey, lui, je l'haïs, je le déteste, puis je suis plus capable de le sentir. » OK? Ça peut être ça. Ou ça peut être caché. Il n'y a rien qui paraît. On a mis un gros bouchon sur notre haine, notre amertume, et on l'haït en secret. Ou on ne se le dit pas parce qu'on est chrétien. Alors, y a-t-il quelqu'un comme ça? Si la personne entre souvent, même dans l'église ici, on va sentir qu'il y a un froid. On va sentir qu'il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Il y a quelque chose de brisé, là. Hein? Il y a une tension. C'est glacial. Et aucune réconciliation possible, il n'y a aucune communion possible tant que le mal qui a été commis entre les deux est enlevé, n'est-ce pas? On n'est pas juste en conflit avec d'autres personnes qui nous ont offensés. Mais le plus grave, c'est qu'on est en conflit avec Dieu. L'humanité, l'être humain, le monde est en conflit avec Dieu. Conflit ouvert, conflit caché, peu importe, on est en conflit avec Dieu. Dans Éphésiens 2, 1 à 3, on va le lire, c'est tough à lire. Mais Paul nous dit que nous faisions partie de cette humanité-là. Et nous étions des fils de la rébellion, des fils rebelles. Dans la parole vivante, il décrit ce que nous étions. Lorsque vous vous laissiez emporter par le courant de ce monde, autrefois toute votre manière de vivre et votre comportement étaient modelés par les habitudes de ce monde. En fait, vous obéissiez à son prince qui règne en maître sur l'atmosphère spirituelle que nous respirons et qui influence la mentalité ambiante. Vous viviez dans la dépendance des esprits mauvais qui accomplissaient leurs œuvres en vous, comme ils le font encore en ceux qui refusent d'entrer dans le plan de Dieu. La suite. Notre comportement à nous tous nous était dicté par nos instincts et nos passions. Nous nous laissions aveuglément gouverner par les impulsions de notre être naturel, tout ce que désiraient nos pensées et notre imagination corrompue, nous l'exécutions, car nous étions comme obligés de céder à tous les caprices de notre nature humaine et de nos sens. Aussi étions-nous par nature l'objet de la colère de Dieu comme tout le reste des hommes. Nous étions par nature des enfants de colère. Ouh! Peut-être on a le réflexe de dire, « Ben non, t'es pas si pire que ça. » Hein? Ou le monde autour est pas si pire que ça. Portrait très sombre, très déprimant de l'être humain. Des gens qu'on côtoie toute la semaine. On peut dire, « Ben, hey, il y a des bonnes personnes dans le monde. » Hein? Des gens qui font des choses extraordinaires, pas tous des bandits, pas tous des voleurs, pas tous des salauds. Et même, je pourrais dire qu'il y en a qui sont bien meilleurs que bien des chrétiens. Hein? Et c'est vrai. Parce que l'être humain a été créé à l'image de Dieu, et même si on est déchu, on peut garder un reflet. Il y a plein de choses qui honorent Dieu dans le monde. Plein de bonnes choses, peu importe les motifs, il y a des bonnes choses qui se font dans le monde. Et on peut les apprécier, on peut dire que Dieu est glorifié à travers ça. Maintenant, qu'est-ce qui fait que je suis un ennemi de Dieu? Une vieille notion, on va sortir une vieille affaire, là. Un vieux mot qui est disparu des conversations, du vocabulaire des Québécois. Et ce mot-là, c'est « péché ». C'est quand la dernière fois tu as entendu ça dans une conversation? On ne dit plus ça. Hein? Le péché est en baisse depuis les années 60 au Québec. Et il a presque disparu. En tout cas, de notre vocabulaire, on n'en parle plus de ça. Et il faut trouver des nouveaux mots si on veut être à la mode, si on veut que les gens nous comprennent. Il faut remplacer ça par... Qu'est-ce qu'on mettrait à place de... Il y a des synonymes bibliques aussi. Faiblesse, nos faiblesses. Désobéissance. Le péché, en fait, c'est désobéir à ce que Dieu dit. Des défauts. Oui, des défauts. Des erreurs, des manquements, des faillances. Ou faire du mal, tout simplement. Alors, combien ça en prend? Combien ça prend d'erreurs pour être ennemi de Dieu? Une. Celui qui dit à son frère, stupide, mérite le feu de la géhenne. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a commis l'adultère dans son cœur. Ça en prend combien pour être ennemi de Dieu? Ça a pris combien d'offenses à Adam et Ève pour passer dans le camp de l'ennemi? Une petite désobéissance. Mange un fruit. Dieu avait dit, non, non, touche pas à ça. Ils ont coûté leur propre nature, leur propre chair, et ils ont surtout écouté la parole du diable. Et ils sont passés dans l'autre camp. Alors, le plus grave, c'est que, pas que moi, je sois ennemi de Dieu, le plus grave, c'est que Dieu est mon ennemi. Et Dieu a été obligé de mettre un mur, ériger un gros mur de séparation entre lui et le péché, parce qu'il ne pouvait pas voir ça. Si le Seigneur avait permis que le péché entre dans le ciel, ça ne serait plus le ciel, ça serait l'enfer. Il a été obligé de mettre un mur de séparation. Et le plus étonnant là-dedans, c'est quoi? Dieu aime son ennemi. Dieu a tant aimé le monde ennemi qu'il a donné son Fils. La réalité, c'est tous ont péché, sont séparés de Dieu, privés de la gloire, de la présence de Dieu. L'enfer, c'est ça. La vie sans Dieu. Ça commence déjà sur terre. Il y a plein de gens qui vivent sans Dieu. Ils sont dans l'enfer. La bonne nouvelle, heureusement, il y a une bonne nouvelle. Moi, je ne pourrais pas rien faire. L'être humain ne pourrait pas rien faire pour se réconcilier avec Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a décidé de se réconcilier avec moi. Et vous qui étiez autrefois des étrangers, des ennemis qu'on a vus tantôt, par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. On l'a échappé belle, hein? Dieu nous a réconciliés avec lui. Alors ça, c'est ce qui s'est passé à la croix. À la croix, Dieu a enlevé le mal. Dieu a enlevé le péché, le vieux mot, là. Il a réglé mon péché. Dieu a enlevé ce qui donnait le pouvoir à l'ennemi. Le péché, lorsque je pêche, donne le pouvoir à l'ennemi de briser ma vie. Je deviens sous son pouvoir. Et là, il peut faire ce qu'il veut avec moi. Et Dieu a brisé le pouvoir de l'ennemi en brisant le péché. Il a vaincu l'ennemi à la croix. Et il a aussi vaincu la mort, la conséquence du péché. Il a tout enlevé ça. Et il s'est réconcilié. Il est venu nous aimer. Il nous a réconciliés. Devenu notre ami intime. Nous étions ennemis. Il a fait de nous ses amis. Il a fait de nous ses enfants, il a fait de nous son épouse. Relation intime avec Dieu. Wow! Dieu a prouvé son amour, hein, Pascal? Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, hein? Lorsqu'on n'était pas aimables, là, pas du tout, là, hein? Lorsque nous étions encore ce que j'ai décrit au début, là, Christ est mort pour nous, à plus forte raison. Donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non cela, non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Dieu, il nous a regardés pécheurs, perdus, méchants, désobéissants, rebelles. Et puis, il a choisi délibérément d'aimer ces personnes-là qui étaient dans cette situation-là. Pensez à quelqu'un qui est méchant dans votre quartier ou dans votre famille. Pensez à le pire de la gang, là. Hein? Et l'amour que Dieu a pour cette personne-là, c'est incompréhensible, c'est surhumain. Pensez à cette dame qui a exercé cette miséricorde-là envers celui qui avait tué son fils. Hein? Si quelqu'un tuait Benjamin ou un de mes enfants, ça serait insupportable. Comment qu'elle a pu lui pardonner? Mais Dieu a eu cet amour-là. C'est lui qui a pris l'initiative. Hein? Et si on avance, non seulement on est réconcilié, mais on est réconcilié pourquoi? Oui, on est réconcilié pour réconcilier. Nous sommes des agents de la paix, hein? Des artisans de la paix. Chaque personne ici a un ministère de réconciliateur, hein? De réconciliation. Parce qu'on on est réconcilié avec Dieu, maintenant on peut dire aux autres, voyez, hein, qu'on peut se réconcilier. C'est notre mission. Il le répète en trois versets. Il répète 1, 2, 3, 4, 5 fois l'importance de la réconciliation. Et ça commence où, la réconciliation? Moi. Ça commence avec moi. Ça commence avec nous. Y a-tu quelqu'un avec qui je dois me réconcilier? Je ne peux pas annoncer la réconciliation si je ne suis pas capable de me réconcilier avec ma femme, ou avec mon fils, ou avec mon patron, ou avec ces personnes-là. Alors, comment je me réconcilie avec mon ennemi? C'est pas dans ma nature, c'est pas dans la nature charnelle. J'ai plus envie de fuir cette chose-là, j'ai plus envie d'oublier ça, j'ai plus envie de laisser pourrir ça, j'ai plus envie de me venger de la personne que j'ai envie de me réconcilier dans ma chair. Mais mon nouveau cœur, lui, que j'ai reçu lorsque j'ai accepté le Seigneur, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut dans le fond de mon cœur. Je veux me réconcilier avec la personne. Je ne peux pas laisser le conflit ouvert. Si tu es capable de dire ce matin, « Lui, je l'haïs », c'est bon, ça. C'est bon parce que c'est vrai. Et si tu le caches, puis tu l'haïs en secret, bien là, tu pars de plus loin. Hein? Moi, j'avais 38 ans, je pense, quand j'ai dit « je suis en colère ». Parce que la colère, c'est un péché. Révélation. « Hey, je suis en colère, cette personne-là. Hein? » Quoi faire avec, pour se réconcilier avec un ennemi? Ce que je vous partage là, ça va être en 5 minutes, ce qu'on fait dans les forteresses. Hein? Les principes de base qui vont nous libérer, qui vont permettre la réconciliation. La première chose à faire, c'est « je suis en colère, puis j'ai mal ». Première chose à faire. Et j'ai raison d'avoir mal. Dieu m'a créé comme ça. Et si je suis en colère contre quelqu'un qui est en train de faire du mal, je suis comme Dieu. Deuxième chose, qui a fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai mal? Qu'est-ce qu'il a fait? Mettre le blâme au bon endroit. Si je ne mets pas le blâme sur la personne qui a fait le mal, je ne pourrai pas lui pardonner parce qu'il n'a rien fait. Troisième chose, qu'est-ce que cette personne-là mérite selon la justice de Dieu? Qu'est-ce que cette personne-là mérite selon la justice de Dieu? Œil pour œil, dent pour dent. Ce que cette personne-là mérite pour avoir dit, pour avoir fait ce qu'elle a fait, c'est épouvantable. Et là, lorsqu'on est dans cette position-là, là, on est en bonne position. Lorsqu'on a nos mains autour du cou de la personne, là, et puis qu'on pense à ce qu'elle a fait, on pense à toute la douleur, toutes les conséquences que ça a eues dans notre vie, puis qu'est-ce qu'elle mérite aux yeux de Dieu, et c'est là que on peut pardonner. Pardonner, ça veut dire que je desserre mes bras autour du cou, je la prends par les épaules et je la remets à son juge. Ça brise quelque chose. Les mauvais liens entre moi et la personne. Je pardonne à la personne. Ça veut dire que je n'ai plus à me venger, je n'ai plus à me faire justice et je n'ai plus à lui régler son compte. Ça brise ses mauvais liens avec la personne. Normalement, il y a une paix qui vient dans mon cœur. Et ce qui se passe dans la prochaine étape, c'est que je ne vois plus cette personne-là comme l'ennemi à abattre, la personne qu'il faut que je me venge. Je la vois comme cette personne-là comme pauvre pécheur perdu que si elle meurt dans son péché, elle va subir le châtiment éternel. je ne la vois plus comme elle était auparavant. Je vois la personne comme une personne qui a besoin du pardon de Dieu. Et je vais tenter la réconciliation, pas pour moi, premièrement, mais pour son bien à elle, pour le bien de la personne. Si je fais cette démarche-là, c'est pour le bien de la personne. Je ne veux pas la laisser dans sa culpabilité, je ne veux pas la laisser dans sa condamnation, je ne veux pas la laisser mourir dans son péché. Et je vais tenter de me réconcilier. Et souvent, lorsqu'on on a passé à travers ce processus-là, on est en position pour aller voir la personne, l'offenseur. Et souvent, l'offenseur va fondre en larmes. Il va tout simplement reconnaître son péché, il va avoir une vraie repentance. Et ces deux personnes-là vont être plus liées qu'avant que ça se produise. Il va y avoir une paix entre les deux. Ils vont s'être réconciliés. Malheureusement, c'est pas toujours. J'ai connu une jeune dame qui avait été abusée par son père. Et puis, elle avait tout pardonné devant Dieu. Elle est arrivée devant son père. Son père s'est redit. Il a tout nié. Il a rien voulu savoir. Et il est resté dans son péché. Malheureusement. Mais elle était libre. Elle a fait ce que Dieu lui avait demandé. Ça a été la réconciliation. Alors, la réconciliation, nous sommes des agents de la réconciliation. On a besoin de se réconcilier nous-mêmes, de vivre la réconciliation nous-mêmes, si on veut annoncer la réconciliation. Et une fois qu'on s'est réconcilié avec notre ennemi, lui parler de la réconciliation avec Dieu, ça veut dire de quoi? On a vécu quelque chose de concret. Je vous laisse avec une histoire. C'est deux frères qui vivaient sur des terres voisines. Et ils ont eu une violente querelle, ils se sont chicanés, ils saillissaient pour se tuer. Et autrefois, ils partageaient tout, puis ils ne partagent plus rien. Il y a une profonde amertume, ils sont voisins. Une terre à côté de l'autre, ils sont voisins, ils ne se parlent plus, ils ne se voient plus. Et un jour, il y a un toc-toc-toc, il y a un ouvrier qui frappe à la porte, c'est un charpentier. Et puis, qui cherchait de l'ouvrage, et puis il demande à un des fermiers, « Est-ce que tu as quelque chose, tu as besoin d'une construction, quelque chose? » Il dit, « Oui, il dit, viens. » Alors, il l'amène à la frontière, je ne sais pas trop où, la frontière, oui, il est en guerre, où les terres se rejoignent, puis il a montré, il dit, « Regarde, mon frère, il a pris un bulldozer, là, puis il a fait un grand étang. » pour nous séparer. Il dit, moi, j'aimerais là que tu fasses un grand mur pour ne plus y voir la face. Je ne veux plus voir sa maison, je ne veux plus rien voir. Alors, construis-moi une palissade, une clôture, quelque chose que je ne verrai plus rien. Alors, il laisse le gars travailler et puis il revient quand c'est fini. Puis là, il s'aperçoit que le gars n'a pas bâti un mur. Qu'est-ce qu'il a bâti, Pascal? Il a bâti un pont. Et là, son frère, quand il a vu le pas que lui faisait pour la réconciliation, il a été tellement touché que les deux se sont rencontrés sur le pont et puis ils se sont réconciliés. C'est pas une belle histoire? Et le charpentier, il dit, « Je peux-tu faire d'autres choses pour vous autres? » Non, ils lui ont demandé, « Peux-tu faire d'autres choses? » Il a dit non, il dit, j'ai d'autres ponts à construire. Avez-vous besoin d'un charpentier? De Nazareth? Le Seigneur, il veut qu'on bâtisse des ponts. Hein? C'est tout un processus, il ne faut pas précipiter les choses. Je sais qu'il y a des situations impossibles. T'sais, si quelqu'un a été violé par une autre personne, c'est une autre histoire, mais si on veut être des agents de la réconciliation, puis on a ce pouvoir-là, d'accomplir cette mission-là hein, que le Seigneur nous a donnée. Si Dieu est venu pour nous réconcilier, lui a fait les premiers pas, il nous demande nous aussi de faire la même chose. Amen. Alors, on peut prier. Oui, Père Céleste, Seigneur Jésus, tu as fait le pas, toi. Tu as donné ton Fils, et ton Fils Jésus est venu se mêler à des brigands, à des ennemis, à des gens qui t'haïssent, à des gens qui ne t'écoutent pas, Seigneur Dieu. Tu as subi les outrages, tu as subi toutes les insultes et même la mort. Tout ça pour nous réconcilier avec toi. Seigneur, c'est une grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui aimerait se réconcilier avec toi? Seigneur, je vois que j'ai péché. Et il n'y a rien que je peux faire pour enlever ça. Simplement que d'accepter que toi, tu l'as enlevé, que tu as payé le prix et que tu m'as tellement aimé que je peux me réconcilier avec toi parce que tu l'as déjà accompli sur la croix. Alors, 2000 ans plus tard, Seigneur, je vais prendre ce que tu as accompli sur la croix et je vais l'appliquer à ma vie. Maintenant, Seigneur, je veux être ton ami. Je veux être ton enfant. Je veux être ton épouse fidèle. Et bénéficier de cette communion intime avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui en veut à quelqu'un, qui est en colère? Ouvertement ou secrètement, peu importe, et qui aimerait se délivrer, être guéri de cette épreuve-là, de cette détresse-là. Seigneur, je suis en colère contre telle personne. Je mets mes mains sur son cou, Seigneur, puis j'aurai envie de lui faire payer ce qu'elle mérite, selon ta loi. Mais au lieu de cela, Seigneur, je la prends par les épaules maintenant, je la remets dans tes mains et je lui fais grâce. Je lui pardonne entièrement tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a fait de pas correct, toute l'offense. Seigneur, je brise ces mauvais liens entre cette personne et moi. Et je choisis maintenant de lui pardonner, de la voir comme une pauvre personne, victime du péché, victime du diable, qui a besoin de ta grâce, de ton pardon. Et je veux lui montrer le chemin de la réconciliation. Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi ton Saint-Esprit, ta force, un esprit d'amour, de sagesse, un esprit de paix pour amorcer la réconciliation. Et Seigneur, fais de nous ces des petits Gédéons, Seigneur. On part des actes de bienveillance, des actes de réconciliation aujourd'hui. Et c'est notre prière, Seigneur, que ça se répande partout autour de nous pour ta plus grande gloire. Amen.